J'aimerais parler ce matin sur « Stop à l'accusation ». Dans Zacharie, chapitre 3, verset 1, nous lisons « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché au feu ? Or Josué était couvert de vêtements sales. » Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur ta tête un turban pur. » Et ils mirent un turban sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Nous avons tous des choses dont nous ne sommes pas fiers ou que nous avons ratées dans la vie. Nous avons rencontré des échecs, peut-être ont subi des jugements, des condamnations. Et on peut se poser la question, mais comment faire pour s'en sortir? Comment faire pour sortir d'une mentalité de jugement, une mentalité de condamnation? Alors, ce que je voudrais dire en introduction, c'est que nous ne sommes pas les mieux placés pour nous défendre nous-mêmes. C'est un petit peu comme dans une cour et un tribunal, l'accusé, eh bien, c'est pas le meilleur pour se défendre. Il fait référence à un avocat qui va parler pour sa cause et défendre des arguments parce que l'avocat, il connaît le dossier et puis il a la manière de présenter les choses, l'art de parler et ça va être un défenseur. Eh bien, c'est pareil dans le monde spirituel. Nous ne sommes pas les meilleurs avocats, mais nous connaissons quelqu'un qui est le meilleur avocat, c'est Jésus. Et Jésus va prendre notre situation en main, notre cause, et son rôle consiste à nous défendre alors que nous sommes accusés par l'adversaire. Ici, vous avez donc l'accusateur, c'est Satan. C'est au verset 1er. Il y avait Satan qui se tenait à la droite donc, de Josué. Josué qui était un souverain sacrificateur, et c'était pour l'accuser. Voilà le rôle de Satan. C'est le premier point. Le rôle de l'accusateur, car Josué, lui, c'était un croyant. Il était, en fait, il avait été déporté à Babylone du temps de Nebuchadnezzar, et puis un nouveau roi a pris la place, il s'appelle Cyrus, c'est le roi de Perse, ils ont conquis Babylone, et ils ont décidé que tous ceux qui avaient été déportés par ce roi Nebuchadnezzar eh bien, soient renvoyés dans leur pays, dont les Juifs. Et les Juifs ont fait partie de ce retour avec Josué, qui est retourné donc en Israël, avec Zorobabel, qui est le roi de, qui était le descendant des rois de Juda. Et là, Josué et Zorobabel, ils ont rebâti l'autel de l'Éternel. Ils ont commencé à rebâtir le temple. Mais ils étaient chargés de culpabilité, ils étaient chargés de péché. Et dans la vision ici que Zacharie exprime, il dit, je voyais donc l'accusateur qui se tenait à la droite de Josué. Ça, c'est notre accusateur, c'est l'adversaire, c'est le diable. D'ailleurs, vous retrouvez dans Apocalypse chapitre 12 et au verset 10, il est appelé l'accusateur des frères. Les frères, c'est nous. Et il continue son rôle d'accusation, les frères et les sœurs. Qu'est-ce qu'il fait dans son accusation? Qu'est-ce qu'il fait, le diable, Satan, l'accusateur? Eh bien, d'abord, il va souligner notre faiblesse. Rappelez-vous quand Pierre, qui se croyait un petit peu au-dessus des autres, lorsque Jésus a dit « Tous m'abandonneront », mais Pierre a dit « Mais moi, je ne t'abandonnerai jamais ». Oui, les autres peut-être vont t'abandonner, mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Et nous connaissons l'attitude de Pierre lorsque Jésus a été arrêté. Il n'a pas compris. Il croyait que Jésus allait sortir une épée et tuer tous les Romains. Il a été donc de loin suivre Jésus jusque dans le prétoire. Et là, il a vu que les choses tournaient mal. Et lorsque des personnes lui ont demandé « Et toi, n'es-tu pas l'un des disciples ?» Et il a dit « Non, je ne connais pas cet homme. » Pourtant, c'était un des plus proches disciples de Jésus. Et une deuxième personne, « N'étais-tu pas de leur nom ?»« Non, 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 je ne connais pas ces disciples, je n'ai rien à voir avec eux. » Et puis une troisième personne, Et à nouveau, Pierre a renié le Seigneur. Et là, on a entendu le coq chanter. Jésus l'avait prophétisé, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié trois fois. C'est exactement ce qui s'est passé. Et là, donc, Pierre a vu ses manquements, il a vu ses faiblesses, il a vu qu'il n'était pas un disciple tel qu'il se l'imaginait dans son esprit. Mais qu'a fait Jésus ? Jésus ne l'a pas condamné en disant « Tu es un incapable, tu es vraiment un misérable, on ne pourra jamais rien faire de toi dans la vie, tu es un mauvais disciple. » Quand Jésus l'a revu après sa résurrection, il l'a réconforté. Il lui a dit « Pierre, m'aimes-tu ? » Et Pierre a dit « Oui, tu sais que je t'aime. » Et trois fois, le Seigneur lui a demandé « M'aimes-tu ? » Trois fois, Pierre lui a dit « Tu sais que je t'aime. » C'est-à-dire qu'à chaque reniement, il y a eu une parole de consolation. « M'aimes-tu ? Tu sais que je t'aime. » Et la troisième fois, il lui dit « Paie mes agneaux », ça veut dire « Tu vas servir dans mon église. Tu vas reprendre ta place. Parce que j'ai un plan pour ta vie. Je ne veux pas que tu restes le nez dans la poussière. Oui, tu es faible. Oui, tu as connu le péché. Oui, tu m'as renié. Mais je veux te restaurer. Je veux te rétablir. » Ça, c'est le plan de Dieu. C'est ce qui va se passer. Et Pierre va devenir l'apôtre Pierre qui va être un prédicateur pour amener des âmes au Seigneur. Donc, l'ennemi, lui, va tout le temps souligner votre faiblesse. Il disait à Pierre, mais tu as dit que tu ne renierais pas le Seigneur, mais tu as renié le Seigneur. Tu as dit que tu ferais cela, mais tu ne l'as pas fait. Et il est toujours là pour accuser, pour condamner. Heureusement que nous avons un avocat qui s'appelle Jésus et qui lui a une parole de réconfort et qui nous dit « Paie mes agneaux, paie mes brebis ». Qu'est-ce que fait encore l'accusateur ? Eh bien, il souligne tous nos manquements. Par exemple, il vous dit ben, « Tu ne pries pas assez, tu n'es pas assez fidèle, tu ne prends pas assez de temps avec tes enfants, tu ne fais pas les choses correctement. » Et constamment, il souligne tout ce que vous avez raté. Il souligne aussi votre incapacité. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Lorsque, par exemple, David a été envoyé par son père sur le champ de bataille et qu'il a rencontré son frère aîné, son frère qui le traitait d'orgueilleux, et que David a entendu ce géant Goliath maudire l'armée d'Israël, à ce moment-là, David a dit « Mais moi, j'irai me battre avec lui. » Quelle foi, quel courage. Ça, c'est pour nous un exemple. Alors, on a rapporté les paroles de ce jeune David au roi, Saül. Mais lorsque Saül a vu ce jeune enfant, parce que c'était qu'un jeune garçon, peut-être un adolescent à l'époque, et il lui a dit « Mais mon enfant, tu ne peux pas aller te battre avec ce géant. Toi, tu es trop petit. Lui, c'est un homme de guerre, c'est un puissant guerrier. Tu ne pourras rien faire contre lui. » Et qu'est-ce qu'est en train de faire Saül ? Il est en train de dire à David, « Tu ne peux pas. » Et combien de fois dans notre vie, nous avons entendu des paroles comme cela ? « Tu n'es pas capable. Tu n'y arriveras pas. Tu n'en as pas la force. Ou tu n'as pas les capacités. Tu n'es pas la bonne personne. » Eh bien, David ne s'est pas laissé démonter par ses paroles. Et c'est là où, frères et sœurs, il nous faut rejeter les paroles du malin. Parce qu'à ce moment-là, derrière la bouche du roi Saül, c'était l'adversaire qui parlait. Un petit peu comme quand Pierre a dit au Seigneur « Cela ne t'arrivera jamais » quand il parlait de la croix. Mais Jésus a dit « Arrière de moi, Satan, cette pensée ne vient pas de Dieu, c'est une pensée du malin. » Eh bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que Saül, il pensait donner des conseils bien sages, bien humains, mais derrière ces conseils, eh bien, nous voyons que c'était le malin qui lui disait « David, tu ne peux pas, tu es un incapable, tu n'y arriveras pas. » Et si, à ce moment-là, David avait laissé ses paroles remplir son cœur, ben, il aurait été découragé en disant « Mais c'est vrai, lui, il a de l'expérience. Moi, je ne suis qu'un incapable, je ne connais pas la guerre. Je ne pourrais pas me battre avec cet homme. » Bien, finalement, il aurait pu abdiquer ici, renoncer et dire ben, « Je ne le ferai pas. » Mais non, il a immédiatement rejeté cette pensée en disant « Cette pensée ne vient pas de Dieu. » Il a rejeté l'armure que lui proposait Saül, qui aurait été pour lui un encombrement dans son combat. Mais il est allé avec sa fronde, il est allé avec cinq pierres, et surtout, quand il est devant Goliath, il dit « C'est au nom de l'Éternel des armées que je me présente devant toi. » C'est comme ça que nous devons faire, frères et sœurs, ne pas nous embarrasser des armes charnelles, mais nous revêtir des armes spirituelles qui sont de la parole de Dieu, qui sont efficaces dans les combats spirituels. Alors, notre incapacité, nous la connaissons, mais nous ne voulons pas recevoir les paroles du malin qui nous dit « tu ne peux pas, tu n'y arriveras pas, tu es un incapable ». Alors, autre élément qu'il fait dans son accusation, le diable, ici, il continue à accuser Josué, il veut nous culpabiliser de toutes sortes de fautes, en disant, par exemple, il va vous dire « c'est ta faute si tout va mal dans ton couple, c'est ta faute si à ton travail ça ne va pas, c'est toi qui es visé ». Et petit à petit, il va vous faire sentir que vous êtes un poids pour les autres, que vous n'avez pas votre place ici et que vous devriez mieux partir. Il vous dira peut-être « tu ferais mieux de tout arrêter, les autres sont bien meilleurs que toi, toi tu es, ne vaux rien, tu es complètement nul ». Un jour, il y a une étudiante comme ça qui m'a dit « Oh là là, je suis complètement nul ». Alors, je lui ai dit « Ne dis pas « je suis complètement nul », mais dis « ce que j'ai fait est nul ». Ce n'est pas pareil. « Ce que j'ai fait est nul ». Oui, c'est vrai, on a raté quelque chose. Mais on n'est jamais vraiment nul, parce qu'on a le Seigneur avec nous et nous sommes des enfants de Dieu bénis. Alors, ne confessons pas « je suis nul ». Par exemple, si vous avez une pièce de 1 euro qui est toute neuve, vous avez une pièce de 1 euro qui est toute neuve, et vous trouvez par terre une pièce de 1 euro qui est très vieille, plus de 10 ans, puis qui est abîmée de partout, on lui a marché dessus, elle est dans la boue, ben vous la nettoyez un petit peu, mais quelle est la valeur de la première pièce qui est toute neuve? Elle vaut combien? 1 euro. Mais quelle est la valeur de cette vieille pièce qui est toute abîmée? Ben, sa valeur, c'est exactement la même. Elle vaut 1 euro. Donc, on ne vaut pas moins, mais on vaut ce que Dieu dit que nous valons. Et Dieu dit que nous sommes des fils et des filles du roi. Alors, peut-être on est un peu cabossé, on a été traîné dans la boue, on a été mis par terre, on nous a marché dessus, mais quelle est notre valeur? Ce n'est pas ce que nous ressemblons, c'est ce que Dieu dit que nous sommes. Si cette pièce, elle vaut 1 euro, même si elle est abîmée, elle vaut toujours 1 euro. Eh bien, pour nous, notre âme, elle vaut le prix du sang que Jésus a payé à la croix pour nous pardonner, pour effacer nos péchés. Alors le diable va vous dire « Non, tu n'as pas de valeur, tu ne vaux rien, tu es inutile, tu ferais mieux te supprimer et comme ça, la terre sera délivrée de toi. » Voilà ce qu'il est en train de communiquer à votre esprit. Eh bien, tout cela, cette culpabilité, au nom de Jésus, nous la ressortons de notre esprit parce que nous ne voulons pas de l'accusateur. Qu'est-ce que fait l'accusateur? Il vous maudit. Son plus grand plaisir, c'est de voir des chrétiens abandonner Christ. Et il va vous maudire, un petit peu comme quand David est sorti de Jérusalem, il y a Shimei qui le maudissait. Il le maudissait alors qu'il partait pour se cacher. Eh bien, l'ennemi va nous maudire. Et il va essayer ainsi de nous préparer un avenir difficile. Alors, peut-être ce qu'il veut, c'est que vous deveniez amer, que vous abandonniez le Seigneur, que vous quittiez les voies de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il place sur nos épaules de gros soucis, des fardeaux que nous ne pouvons pas porter. Et il nous dit, bah, tu vois, tu es incapable d'avancer dans la vie, tu ne t'en sortiras jamais. Mais déchargeons-nous sur Jésus de tous nos soucis, de tous nos fardeaux. Parce que si nous les portons, en fait, nous allons nous effondrer nous-mêmes et nous ne pourrons rien faire dans l'œuvre de Dieu. Alors, le diable va mettre devant nos yeux tous nos péchés en disant « tu es un mauvais chrétien, tu ne fais rien de bien, tu ne t'en sors pas ». Il va vous culpabiliser. Par exemple, il a empêché Paul d'aller voir les Thessaloniciens. Paul dit « mais j'ai voulu aller vers vous, mais Satan m'en a empêché ». Il essaye d'agir pour nous freiner. Et Jésus, enfin, dans Jean chapitre 10, verset 10, résume l'activité du malin. Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est le rôle de l'accusateur. Et il tient sa place. Et il ne veut pas faire autre chose. Mais Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et nous, nous sommes les brebis du Seigneur. Et écoutez bien les paroles de l'avocat. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Et c'est lui que nous suivons, c'est lui que nous servons. Alors, que faire face à ce flot d'accusations, peut-être, qui remplit notre esprit? On a Josué qui est là, on a l'accusateur qui est à sa droite pour l'accuser, pour montrer toutes ses failles. Première chose que nous devons faire, si nous sommes accusés par l'adversaire, et nous le sommes, eh bien, ne pas l'écouter. Car plus nous donnons du pouvoir aux paroles du malin, plus ça va prendre, ça va s'étendre dans notre cœur. Et puis, vous ne tarderez pas à être découragé et à confesser ce que l'ennemi est en train de dire, en disant « Je suis un mauvais chrétien, j'ai tout raté dans la vie, je ne m'en sortirai jamais. » Deuxième chose, ne pas croire ses mensonges. Jésus dit dans Jean 8, 44 que le diable, c'est un menteur et le père du mensonge. Donc, ne croyez pas ce qu'il dit de vous, ce qu'il veut vous culpabiliser, cela ne vient pas de Dieu. Peut-être il vous dira « Tu n'as pas besoin de Dieu, tu t'en sors très bien sans lui, tu n'as pas besoin de l'Église, vis ta vie. » Et d'ailleurs, Dieu ne t'a pas répondu à ta prière, Dieu ne t'a pas aidé la dernière fois et tout s'est bien passé. Et il va essayer ainsi de vous rappeler toutes sortes de mauvaises choses. Non, ne le croyez pas. Et troisième chose, prions notre avocat qui s'appelle Jésus. Jésus défend notre cause devant Dieu. Ici, il est appelé l'ange de l'Éternel. Et c'est le meilleur avocat. Parce que tout le monde, on a besoin d'un avocat ici. On a besoin d'un avocat parce qu'on a tous péché quelque part. On a tous des failles et on a besoin d'être pardonné. Et pour toutes nos erreurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, reconnaissons nos fautes ce matin. On a chanté tout à l'heure un chant qui disait « Pardon, Seigneur, pardon notre orgueil, nos résistances, nos mauvaises pensées. » Eh bien, nous avons besoin d'un avocat. Et quand nous demandons pardon à Jésus, eh bien, il est assez pur et parfait pour nous purifier de tous nos péchés et pour nous enlever cette culpabilité qui vient de la part du malin. Mais il faut reconnaître ses fautes. Il ne faut pas dire « Oui, mais moi, tout va bien, je suis un bon chrétien, je viens le dimanche, je donne ma dîme, etc. » Ce n'est pas dans les œuvres, ce n'est pas dans l'apparence, c'est dans le cœur. Donc, il nous faut que notre cœur soit transpercé par la grâce, par l'amour de Dieu. Alors, Jésus nous connaît bien, il sait très bien nos failles, nos défauts. Il nous aime quand même, néanmoins, parce qu'il a un plan pour nous, mais confessons-lui nos péchés. Le deuxième élément dans ce passage, après l'accusateur, on a bien repéré au verset 1, Satan, donc, il se tient là pour accuser Josué. Deuxième point, c'est la situation de Josué. La situation de Josué n'est pas très bonne. Elle n'est pas brillante. Premièrement, le Seigneur appelle, c'est un tison arraché au feu. Un tison, c'est un morceau de bûche qui est déjà en train de brûler, qui va bientôt se calciner, mais qui a été arraché au dernier moment et qui a été épargné. Mais c'est aussi notre situation, frères et sœurs. Nous sommes des tisons arrachés au feu, quelque part, parce que nous étions dans le péché, nous étions loin de Dieu, nous étions perdus. Et Jésus est venu pour nous arracher aux ténèbres et nous transporter dans sa grâce. Colossiens, chapitre 1, verset 12, le dit, c'est Paul. Paul qui écrit, inspiré par le Saint-Esprit, « Rendez grâce au Père, c'est-à-dire à Dieu, Dieu notre Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Il y a tout ici l'histoire du salut, que Dieu a eu pitié de nous et qu'il nous a arrachés au feu. Il nous a arrachés aux ténèbres. Nous sommes le tison arraché au feu et transporté dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, si nous avons accepté Jésus comme sauveur, nous faisons partie de l'Église de Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Alors que dit ce passage? Verset 12, il dit que nous sommes capables. Oui, nous étions incapables. Et l'ennemi nous culpabilise, tu es incapable. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il vous a rendu capable. Nous sommes capable par la grâce de Dieu. Ensuite, il dit, maintenant, nous avons un héritage, parce que nous n'avons rien, nous n'avions rien, nous étions séparés de Dieu, nous étions perdus. Il dit, maintenant, vous avez un héritage glorieux qui est spirituel, qui est céleste. C'est l'héritage d'en haut. Maintenant, il dit, nous ne sommes plus esclaves, parce qu'on était tenus par le malin dans le péché, dans le mal. Et il dit, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et maintenant, nous sommes libres, et libres de vivre selon le plan de Dieu. Et puis nous avons été arrachés à ce feu éternel et nous avons été transportés dans la grâce de Dieu. Voilà le plan d'amour de Dieu pour nous. Donc la situation de Josué, La première chose, c'est qu'il est un tison arraché au feu, comme nous le sommes. Et la deuxième chose, c'est qu'il est couvert de vêtements sales. Et ça, ça nous parle du péché qui a couvert Josué. Josué, c'est le souverain sacrificateur qui représente aussi le peuple de Dieu devant Dieu. Et Josué a péché ainsi que le peuple a péché. Et donc, nos vêtements sont salis par le péché. C'est comme une pollution. C'est comme quelque chose qui va s'imprégner dans nos vêtements et qui ne partira pas si nous ne nous repentons pas sincèrement. Pour expliquer le péché, Jésus prend cette histoire, il raconte cette histoire, cette parabole d'un homme qui avait deux fils. Un homme avait deux fils et le plus jeune s'est rendu vers son père pour lui dire « Mon père, donne-moi tout de suite la partie de mon héritage qui me revient. » Le père n'est pas mort, hein, mais il veut tout de suite son héritage. En fait, il veut l'argent parce qu'il veut partir de la maison dans un pays éloigné. Bon, le père accepte, il est malheureux, il accepte cela. Le fils prend l'argent, il va dans un pays très éloigné de la présence du père, et là, il dépense tout son argent dans la débauche, la vie du monde, tous les excès. Il a connu tout ça. Mais au bout d'un moment, il n'y a plus d'argent. Et survient une famine dans le pays, et c'est là que va se révéler finalement la vraie nature, le vrai caractère des gens. Et on voit que cet homme, il n'a rien. Il n'a plus d'argent, il n'a plus d'amis, parce que tant qu'il avait d'argent, il trouvait des gens pour l'accompagner, mais maintenant, il est seul. Et ses amis à qui il a donné de l'argent, ils ne sont plus là pour l'aider maintenant. Il est tout seul. Et parfois, nous sommes tout seuls parce que nous avons été abusés, nous avons été trompés. Et maintenant, il se retrouve à garder des cochons, parce qu'il faut bien faire quelque chose dans la vie, mais les cochons, c'est une abomination pour les Juifs. Il a honte de le faire, il le fait parce qu'il faut le faire. Et il se dit, mais moi, j'aimerais même tellement manger la nourriture de ces cochons-là, les carouges, que même je ne peux même pas les avoir. Et voilà la misère dans laquelle il est tombé. Et la Bible dit que son vêtement donc était sale. Son vêtement était imprégné de cette odeur du cochon. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter une porcherie. Il n'y en a pas beaucoup à Toulouse, des porcheries. Bon. Eh bien, moi, j'ai eu l'occasion de visiter une porcherie et même, j'ai fait trois semaines entières, à 100 mètres d'une porcherie. Eh bien, je peux vous assurer que moi, j'aime bien le saucisson, mais alors, l'odeur du cochon, on n'en pouvait plus. Ça imprégnait les vêtements, ça imprégnait les murs. Vous sentiez le cochon, mais partout, ça sentait le cochon. C'est quelque chose d'horrible. Et ça ne part pas. Ça reste. C'est pas facile, l'odeur du cochon. Et quand c'est bien imprégné dans vos vêtements, bah, vous l'avez avec vous. Et bien voilà que cet homme qui gardait les cochons, il était imprégné de l'odeur du cochon. Et bien voilà. Il rentre chez son père avec son habit sale, imprégné de l'odeur du cochon. Mais qu'est-ce que fait son père? Et son père, il représente Dieu. Mais son père, il l'attendait tous les jours. Et il attend le pécheur qui se repent. Parce que ce fils s'est dit, mais moi, je vais reconnaître mes péchés, je rentre chez mon père et je vais demander pardon pour tout le mal que j'ai fait. Et effectivement, son père l'accueille les bras ouverts et il l'accepte avec sa robe sale. Sa robe est encore pleine de l'odeur du cochon. Ça ne sent pas bon. Mais qu'est-ce que fait son père? Il va lui donner une tunique propre. Il va demander au fils, ce n'est pas dit dans la parabole, mais on peut le supposer, d'aller prendre un bon bain. Et ensuite, il lui donne ce vêtement blanc, ce vêtement propre. Eh bien ça nous parle du vêtement que Jésus a pour nous. Quand nous sommes pécheurs, nous venons avec nos vêtements sales. Eh bien, nous passons par le bain de la parole de Dieu, la repentance. Et puis, il nous donne un vêtement propre qui est blanc, qui est pur. C'est le vêtement du pardon des péchés. Alors, voyez, cette simple histoire que Jésus raconte, c'est la parabole du fils prodigue, eh bien, nous montre que même si on est très bas tombé, on est très loin de Dieu, dans le péché, loin du Seigneur, dans les fautes morales, tout ce que vous imaginez, eh bien, quand même si nos vêtements sont sales, eh bien, il nous accueille et il veut nous restaurer parce qu'il ne veut pas que nous restions comme cela. Il a un meilleur plan pour nous, il veut que nous soyons purs pour lui. Le péché a généré des tâches tellement profondes qu'elle ne s'efface pas. Jérémie, chapitre 13, verset 23. Jérémie écrit, « Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses tâches. Et il parle maintenant au peuple qui est pécheur. De même, vous pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés au mal. Ça veut dire que le péché est attaché au cœur de l'homme et que quoi qu'il fasse, eh bien, il fait le mal. Rien dans ce monde ne peut effacer le péché. Voilà pourquoi tant de gens vivent dans la culpabilité. Ils se sentent coupables, ils se sentent responsables de faute, et c'est normal, c'est la culpabilité due au péché, celle-ci. Et c'est pourquoi il y a tant de psychologues qui essayent d'aider ces gens, des médecins. Mais un médecin, s'il peut soigner le corps, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Mais comment voulez-vous soigner la culpabilité ? Comment voulez-vous soigner une âme qui se sent mal, qui ne sait pas pourquoi elle est là sur la terre, quel est le sens de la vie, qu'est-ce qu'on fait ici, et qui se sent coupable de faute ? Mais qui va la pardonner ? Qui va l'aider ? Le médecin ne peut pas le faire. Mais nous connaissons l'avocat, nous connaissons le Seigneur qui va prendre notre défense, qui va plaider notre cause devant Dieu et Dieu qui nous procure la paix et le pardon du cœur. Mais Dieu voit notre vêtement ce matin. Peut-être notre vêtement est tout taché à cause du péché et on ne peut pas le cacher aux yeux de Dieu. C'est un vêtement sale. Le vêtement doit être changé. Je donne cette illustration pour vous le montrer. C'est un jour... Les pharisiens sont allés écouter Jésus enseigner, c'était dans une maison. Il y avait tellement de monde dans la maison que plus personne ne pouvait rentrer. Et à un moment donné, la Bible dit qu'il y a 4 hommes qui ont porté un paralytique pour l'amener et ils voulaient le déposer au pied du Seigneur pour que Jésus prie pour lui. C'est une bonne chose. Mais il n'y avait pas moyen d'entrer dans la maison. Alors ils sont montés sur le côté par les marches jusqu'au toit, ils ont ouvert le toit, et ils ont descendu le paralytique au pied du Seigneur. Et Jésus, quand il a vu cet homme, il ne l'a pas rejeté, ça interrompait sa réunion, c'est pas grave, il a prié pour lui, il lui a dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés ». Et les pharisiens qui étaient là, justement, au premier rang, ils écoutaient, ils disaient « Mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Cet homme blasphème, il parlait de Jésus, cet homme blasphème. Il n'a pas le droit de dire « Tes péchés te sont pardonnés. » Il n'y a que Dieu qui peut dire « Tes péchés te sont pardonnés. » Personne ne savait les pensées de ces hommes, c'était dans leur cœur. C'est comme leur vêtement qui est invisible. Mais la Bible dit en Luc 5, 22, « Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et dit « Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs ? » Vous avez des mauvaises pensées. Personne ne peut les voir, mais Jésus les voit. Il voit les vêtements sales. Il voit la réalité de notre cœur. Et Jésus a dit, mais qu'est-ce qui est le plus facile de dire ? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi, prends ton lit et marche. Alors, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de guérir les malades, au nom de Jésus, lève-toi, prends ton lit et marche. Et le malade s'est levé à la parole de Christ. Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus a le pouvoir de guérir les maladies. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Mais ne venons pas à lui avec... en voulant cacher nos vêtements sales. Au contraire, d'abord, Jésus les voit de suite, mais si nous les confessons sincèrement, eh bien, il va nous donner un vêtement blanc. La troisième partie dans ce récit, après le souverain sacrificateur, donc Josué, c'est maintenant le rôle de l'avocat. On a vu premièrement Satan qui accuse. On a vu la situation de Josué, il est couvert de vêtements sales, mais maintenant intervient le défenseur, Jésus. C'est l'image de l'ange de l'Éternel, parce que bien souvent, quand l'ange de l'Éternel intervient dans l'Ancien Testament, il a toutes les caractéristiques du Fils de Dieu du Nouveau Testament. Ce n'est pas un ange ordinaire, ce n'est pas une créature de Dieu, mais c'est une manifestation de Christ dans l'Ancien Testament, une manifestation visible et audible de Dieu. Alors quand, par exemple, quand l'ange de l'Éternel parle, c'est Dieu qui parle, un peu comme Jésus. Quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle en fait. Dieu parle à travers Jésus et il a véritablement les caractéristiques du Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Voyez, au verset 1, c'est dit que l'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel était près de cet accusé. Et quand nous sommes accusés, frères et sœurs, sachons que l'ange de l'Éternel n'est pas loin de nous. Il est notre défenseur. C'est Jésus. C'est notre avocat. Alors, quand on vous accuse, ne perdez pas courage. Il y a quelqu'un qui est près de vous et qui se charge de prendre votre défense. Voyez, c'est L'apôtre Jean qui le confirme dans 1 Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. Jean écrit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Amen. Il est lui-même un avocat auprès de Dieu, auprès du Père, pour défendre notre cause. Voilà le rôle de l'ange de l'Éternel, c'est l'avocat de Josué. Voilà le rôle de Jésus auprès de nous, c'est notre avocat auprès de Dieu. Alors qu'est-ce que fait l'ange de l'Éternel? Au verset 4, il dit « ôtez-lui les vêtements sales ». Première chose qu'il fait, c'est enlever le péché. Ôtez-lui les vêtements sales. Comment est-ce que Jésus procède? Par son sang précieux, on l'a rappelé tout à l'heure lors de la Sainte Cène, son sang qui a coulé pour effacer nos péchés, eh bien il est encore efficace, et je dirais même c'est le seul efficace pour laver complètement nos péchés. C'est le sang de Jésus. Mais il y a une condition, car le sang de Jésus, il a bien coulé il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, pour effacer les péchés du monde entier. Mais tous les péchés ne sont pas encore pardonnés. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule condition, c'est qu'il nous faut croire que ce que Jésus a fait, il ne l'a pas fait simplement comme cela pour le monde, mais il l'a fait pour moi personnellement. Et si je crois cela de tout mon cœur, à ce moment-là, eh bien, l'œuvre de Christ devient mienne. Et je reçois Christ dans mon cœur. Il devient mon sauveur. Il n'est pas simplement le sauveur du monde, mais il est, ce matin, mon sauveur personnel, celui à qui j'ai confié ma vie. Ça change. Je peux lui parler. Je peux l'écouter. J'entretiens une relation maintenant avec mon sauveur, mon Seigneur. Beaucoup de gens ont du mal à croire que ça soit possible, que ça soit aussi simple pour être délivré du péché. Il y a juste à croire. Pourquoi? Pourquoi c'est tellement difficile à croire pour les gens? Eh bien, parce que la Bible nous parle de la grâce. Et la grâce, ce n'est pas un concept humain, c'est un concept divin. Ça vient de Dieu. Et les gens ont du mal à comprendre que ça soit aussi simple de venir au Seigneur, parce qu'ils sont dans le domaine de la réflexion humaine. Et nous avons une réflexion compliquée. Nous pensons que pour plaire à Dieu, il faut faire des efforts. Il faut faire des œuvres pour lui plaire. Il faut arriver à faire quelque chose pour qu'il soit attentif à nous. Or, la grâce, c'est autre chose. C'est que d'abord, Dieu nous aime comme nous sommes et qu'il veut nous sauver. Ensuite, nous pouvons le servir et faire des œuvres pour lui plaire. Mais la grâce commence d'abord par l'amour de Dieu et commence par l'acceptation de tous. C'est pourquoi tant de monde a du mal à le croire aujourd'hui. Ben, c'est tout simple. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Il y a quand même la foi qui est là. Vous enlevez la foi si vous dites « c'est par grâce que vous êtes sauvés », mais si je ne crois pas, il y a la grâce, parce que la grâce est là ce matin. Je dirais que la grâce, elle est là pour chacun d'entre nous personnellement. Mais si vous n'arrivez pas à la deuxième partie du verset « par le moyen de la foi », donc si vous ne croyez pas vous-même, oui, vous allez me dire peut-être « oui, mais mon père y croit, j'ai un oncle qui est... » Des fois, on me dit « oui, mais moi j'ai un oncle qui est prêtre, j'ai un père qui est pasteur, etc. » Mais ce n'est pas ça qui fait de nous un chrétien, n'est-ce pas? C'est la foi. Donc, il y a la grâce, oui, elle est pour nous, mais il y a un autre élément qui, maintenant, est de votre ressort, c'est la foi. Donc, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Est-ce que vous croyez en Jésus? Est-ce que vous lui avez donné vraiment votre vie? Ça, c'est votre part. Alors, dans ce monde, ça se passe comme ça. Voilà pourquoi le monde a tant de mal à croire la grâce. Dans le monde, c'est à chaque faute, tu dois payer. Tu payes, tu payes, tu payes. D'abord, on n'a que des... Vous avez remarqué qu'on n'a que des factures, on n'a que des choses à payer dans ce monde. Ça n'arrête pas. Et j'ai l'impression que ça va continuer comme ça. Ça, c'est le monde. Mais à la croix, Christ a dit, tout est accompli. Mais littéralement, dans le grec original, c'est tout est payé. Tout est payé. Ça veut dire que Christ a payé pour nous. Alors ça n'existe pas dans le monde. C'est pour ça qu'on a tellement de mal à comprendre la grâce. Quand Jésus a dit, tout est payé, il a pris de ses propres biens, mais c'est son propre sang qu'il a versé pour effacer nos péchés. Hébreux chapitre 9, verset 14. à combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant et vrai. Lui, il était sans tache, son vêtement était pur, aucune tache, mais il a offert sa vie en sacrifice, et il dit, son sang maintenant va purifier vos consciences. Vous allez avoir un vêtement blanc. Vous allez être délivré de ces œuvres mortes. C'est quoi les œuvres mortes? C'est tout ce qu'on veut faire pour gagner la faveur de Dieu. Ça, c'est fini. Maintenant, nous marchons dans la grâce et vous allez servir le Dieu vivant et vrai. Deuxième chose que fait l'ange de l'Éternel, il va le revêtir donc, d'habits de fête maintenant, Josué. Il va lui donner des habits de fête. Moi, ça me fait penser aux vêtements de justice que nous avons quand nous sommes enfants de Dieu. Nous avons un nouveau vêtement que Dieu nous donne. C'est un vêtement qui nous rend juste aux yeux de Dieu. Comment est-ce que Dieu nous voit ce matin? Eh bien, il nous voit juste par le sang de Christ, parce que Christ nous a recouverts de son sang. Le vêtement que l'ange de l'Éternel donne, c'est un vêtement de louange. Comme nous l'avons fait ce matin, nous venons dans sa présence pour l'adorer. Alors, ne nous privons pas, frères et sœurs, adorons-le, élevons la voix. Revêtons ce vêtement de louange. C'est un vêtement de fête. C'est une joie de venir dans la présence de Dieu. Adorons-le dans la joie et faisons monter nos cantiques, notre reconnaissance. Souvent, nous laissons ces vêtements de justice, ce vêtement de louange, ce vêtement de joie, nous les laissons au placard. Et nous revêtons d'autres vêtements. C'est le vêtement de la tristesse, le vêtement de la jalousie, c'est le vêtement de l'amertume. Et puis là, on est dans ses pensées, comme disait une sœur, frère, si vous saviez, depuis que je suis chrétienne, la vie, tout va mal. Tout va mal. Des factures, je n'arrive pas à payer. Le frigo est tombé en panne. Même le chien, il n'obéit plus à la maison. Depuis que je suis chrétienne. Alors, quel vêtement on revêt? C'est le vêtement de la tristesse, de la jalousie, de la souffrance. Ben, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un grand tri dans notre garde-robe et d'enlever tous les vieux vêtements. On les met au Secours populaire. Et maintenant, on prend les vêtements que Dieu nous accorde. Ce sont les vêtements qui viennent d'en haut. Les vêtements de justice, les vêtements de louange, les vêtements de fête. Et c'est comme ça qu'on avancera dans l'œuvre de Dieu. Alors, quelqu'un vous dira, parce qu'il va vous voir avec ses nouveaux vêtements, il va vous dire, mais pourquoi tu ne reviens pas avec nous? Pourquoi tu ne viens pas critiquer un petit peu? Pourquoi tu ne viens pas calomnier un petit peu et dire du mal? Ben non, non merci. Moi, j'ai changé de vêtements. Ces vêtements-là, j'en veux plus. Je les ai laissés. Maintenant, j'ai revêtu les vêtements de justice, les vêtements de louange, les vêtements de fête. Ésaïe écrit, Ésaïe 61, verset 3, « L'Éternel m'a oint pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Est-ce que vous êtes venu avec votre vêtement de louange ce matin? Ou est-ce que c'est le vêtement d'abattement? Ah Seigneur, la semaine a été tellement difficile. Comment je pourrais louer le Seigneur dans ces conditions? Là, j'ai mon vêtement d'abattement. Non. Enlevez-le et revêtez-vous du vêtement de louange. Merci Seigneur pour ta présence. Je suis venu dans la joie pour t'adorer. Oui. Ça, c'est le vêtement de louange. Alors, ben, l'ennemi va toujours vouloir vous charger du vêtement de la tristesse. Débarrassez-vous-en au plus tôt. Moi, je n'en veux plus. Je veux garder les vêtements de Dieu. Et le dernier élément que Josué reçoit, c'est le turban. C'est au verset 5. Ils mirent un turban sur la tête de Josué. Un turban, vous savez, c'est la tiare qu'il y avait sur la coiffe des sacrificateurs. Il y avait une lame d'or pur avec marqué « Sainteté à l'Éternel ». Sainteté à l'Éternel. Voilà la tête. Nous avons les pensées de Dieu. Pensées tournées vers le Seigneur. Sainteté à l'Éternel. Parce que dans nos pensées, il y a un vrai champ de bataille. Alors, entretenons des pensées pures. Moi, je dirais que c'est un vrai défi aujourd'hui de penser de bonnes choses, alors que tout nous pousse à penser mal. Alors, comment faire? Paul dit, entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques. Ne laissez pas les mauvaises pensées prendre racine, mais sortez-les de votre esprit. Veillez sur vos pensées même avant de vous endormir, parce qu'on le sait très bien, tout ce que nous pensons avant de nous endormir va nous poursuivre pendant notre sommeil. Alors il y a un bon conseil dans Philippiens 4:8, il y a au moins 8 choses auxquelles nous devons penser. Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, ça fait déjà 3, tout ce qui est pur, ça fait 4, tout ce qui est aimable, ça fait 5, tout ce qui mérite l'approbation, ça fait 6, tout ce qui est vertueux, ça fait 7, et ce qui est digne de louange, ça fait 8, soit l'objet de vos pensées. Est-ce qu'on a déjà pensé à tout ça? Hein? Ça prend du temps déjà. Si on prend le temps de penser à tout ça, ça évacue les autres pensées négatives, des pensées de découragement, on n'en veut pas. Alors entretenons-nous par des bonnes pensées, elles vont prendre toute la place dans notre esprit. Josué était là, accusé par le diable. Mes frères et sœurs, nous avons un défenseur, c'est Jésus-Christ. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, Jésus vous aime et il va prendre votre défense, même si vous êtes accusé. Alors il y a deux possibilités, soit c'est des fausses accusations, et à ce moment-là, nous n'avons rien à craindre parce que Jésus défend contre cette fausse accusation. Mais soit c'est des accusations véritables aussi parce que nous avons fait des fautes, elles sont vraies. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? C'est confesser nos péchés et à ce moment-là, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité.